Mon propos ce matin, dans ce séminaire sur la biodiversité des sols, c'est de vous parler d'un projet qui est en cours pour essayer de suivre la biodiversité des sols au niveau national, en s'appuyant sur le réseau de mesure de la qualité des sols dont je suis le coordinateur à INRAE depuis une vingtaine d'années. C'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs un petit icône sur le RMQS à 20 ans, parce que cette année, nous fêtons les 20 ans de ce réseau. Alors, avant de vous parler de biodiversité, je me suis dit que c'était peut-être important que je remette, même si ça fait très longtemps que j'en parle, peut-être que vous n'avez pas tous le même niveau de connaissance sur ce qu'est le réseau de mesure de la qualité des sols. Donc, je vais commencer par quelques diapos pour présenter un peu le réseau. Donc, c'est un programme qui est financé et coordonné par le groupement d'intérêt scientifique sol hein, depuis son démarrage en 2000. Le groupement d'intérêt scientifique sol, c'est une structure qui réunit en fait des organismes financeurs, hein, donc ministère de l'écologie, de l'agriculture, l'ADEME, depuis peu l'Office français pour la biodiversité, bientôt le BRGM, et puis des organismes plutôt qui mettent en œuvre des actions concrètes, en plus aussi d'apporter un financement propre. Donc INRAE, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, l'IGN. Donc il y a plusieurs programmes qui sont financés par ce groupement d'intérêt scientifique sol, des programmes d'inventaire des sols en France, et puis un programme de surveillance depuis le début des années 2000. Donc l'objectif de ce programme, c'est suivre à long terme les propriétés des sols français, avoir un tableau de bord de la qualité des sols, avoir à partir de ces informations, pouvoir faire un bilan sur l'état des sols et proposer comme ça des références sur les propriétés mesurées. Bien sûr, on fait des cartographies de ces propriétés. L'objectif, c'est du suivi, de la surveillance. Donc, on va suivre l'évolution de ces propriétés de sol. Et puis, tous les échantillons permettent de constituer une banque d'échantillons qui est à INRAE Orléans. Alors voilà comment est configuré le réseau. Donc 2240 sites qui sont répartis sur la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, selon une grille systématique de 16 km par 16 km. Et c'est un réseau qui est représentatif des sols français, de leurs occupations. Je vais vous illustrer ça juste après, et qui est avec une fréquence de retour sur site d'une quinzaine d'années. Donc voilà l'occupation des sols des 2240 sites du RMQS. Donc ça, les occupations de la première campagne, hein, correspondent aux grandes occupations des sols en France. En jaune, vous avez les successions culturales, donc c'est 40% des points à peu près. En vert clair, les prairies, on a une trentaine de pourcents. Et puis en vert foncé, 25% de sols forestiers, puis quelques pourcents qui restent, diverses occupations, des milieux naturels, des parcs et jardins, des vignes et vergers, etc. Et puis c'est aussi un réseau qui est représentatif des principaux types de sols français. Donc là, je vous ai mis une carte des types de sols du réseau. Et puis sur la gauche, vous avez la carte des sols issue des référentiels régionaux pédologiques qui est maintenant accessible sur le géoportail avec une même légende colorée qui montre qu'on a quelque chose d'assez similaire dans les grandes structures, mais bien sûr avec une précision qui est tout autre. Mais globalement, on est bien représentatif des sols français. Voilà, donc en termes d'échantillonnage, on lance une campagne avec une fréquence de 15 ans à peu près. Donc, on a mené une première campagne entre 2000 et 2015 en métropole, en Outre-mer. Et là, actuellement, on a démarré la deuxième campagne métropolitaine en 2016. Et on est à peu près à mi-parcours là sur la métropole. Et on espère pouvoir lancer l'Outre-mer, la deuxième campagne bientôt. Voilà, donc pour préciser un peu ce que l'on fait sur chaque site au sein de donc au centre de chaque cellule de 16 km par 16 km, on installe un dispositif d'échantillonnage assez petit, hein, qui fait 400 mètres carrés, avec une surface d'échantillonnage et une fosse pédologique. Donc le système est configuré pour pouvoir faire de la surveillance sur le long terme. Donc à chaque campagne d'échantillonnage, on décale les points de prélèvement, ne pas retomber exactement au même endroit. On fait des échantillonnages composites pour le suivi temporel, c'est-à-dire qu'on mélange 25 prélèvements d'échantillons, 25 prélèvements, pardon, qui sont prélevés à différentes profondeurs. Chaque série de 25 est prélevée à différentes profondeurs du sol, ici 0, 30, 30, 50, 50, 75, 75, 100 pour la campagne actuelle. Et donc à chaque fois, on a un échantillon composite de cette épaisseur et c'est ça qui sert pour le suivi temporel. Et puis, bien sûr, on creuse une fosse pédologique à proximité pour décrire, creuser, échantillonner selon les horizons de sol cette fois, prélever des échantillons volumiques et reboucher dans l'ordre les horizons de sol pour essayer d'avoir le moins d'impact possible. Tout ça, ça génère beaucoup d'échantillons, donc à peu près 40 000 par campagne, qui sont ensuite pris en charge, séchés, préparés, tamisés à 2 mm par le Conservatoire européen d'échantillons de sol qui est à Orléans. Et ça fait à peu près, donc à partir de ces 40 000 échantillons frais, on en génère à peu près 200 000 qui sont stockés pour chaque campagne à Orléans. On a défini un menu analytique assez complet pour caractériser les sites. Donc voilà ici la liste de ce que l'on mesure, des paramètres pédologiques assez classiques. On a ajouté, avec le démarrage de la deuxième campagne, des propriétés hydriques, avec la caractérisation du réservoir en eau utilisable. On a mesuré beaucoup de contaminants, des émantras, des micro-polluants organiques, des pathogènes, en essayant de faire de plus en plus le lien avec la santé, avec l'exposition des populations à ces contaminants. Et puis, un des enjeux aussi de base sur le RMQS, c'est donc le rôle du sol par rapport au stockage de carbone et en lien avec les questions de changement climatique. Donc pour ça, on analyse les stocks de carbone jusqu'à 1 mètre. On regarde aussi différentes formes de matière organique, des matières organiques particulières, des approches par spectrométrie, etc., pour essayer de caractériser finement les compartiments organiques. Et on s'intéresse aussi à la biodiversité. Donc c'est de ça dont je vais vous parler un peu plus maintenant. Donc on a un dernier point, j'ai oublié, très important, un des rares réseaux de surveillance, le RMQS, qui collecte aussi des informations relativement exhaustives, on essaye d'être exhaustif sur l'environnement, les sources de contamination et surtout sur les pratiques de gestion des parcelles, notamment tout ce qui est pratique agricole, pour pouvoir ensuite faire des liens avec l'évolution des propriétés des sols et les pratiques de gestion. Alors voilà ce que ça. Je vous montre pas de détails. Je ne vais pas vous parler en détail de toutes les données qu'on a pu acquérir sur ce réseau. Donc on a voilà travaillé sur les contaminants, sur le carbone. Et je vais faire maintenant un focus plutôt sur la biodiversité, mais toutes ces données-là sont accessibles, publiées. Vous pourrez, si ça vous intéresse, aller sur le site du groupement d'intérêt scientifique Sol. Je pourrais vous donner des liens pour accéder à toutes ces données collectées depuis 20 ans. Voilà. Donc, en ce qui concerne plutôt la biodiversité des sols, Michael en a beaucoup parlé là et de manière détaillée, très bien. Donc, je ne vais pas vous refaire un panel de ce que c'est que la biodiversité des sols. Je pense que c'est pas la peine. Ça a été très bien présenté. Juste pour vous dire qu'il y avait en fait une grosse diversité d'organismes qui assurent de multiples fonctions et des systèmes et des services écosystémiques. Donc, c'est essentiel de s'intéresser à ce compartiment quand on fait de la surveillance des sols. Michael l'a dit aussi, la biodiversité des sols est largement méconnue encore. Elle est aussi sujette à des menaces. Donc là, sur la droite, vous avez des cartes qui vous montrent à l'échelle européenne des estimations par avis d'experts de menaces qui s'exercent sur les micro-organismes, la faune du sol et puis sur les fonctions biologiques, donc avec sur notre territoire quand même pas mal de rouge. Et donc en gros, il n'existe pas de suivi pour le moment de la biodiversité globale des sols à l'échelle du territoire français. On a donc un fort besoin de connaissances fondamentales concernant les espèces présentes, leurs aires de répartition, les habitats qui sont concernés par toutes ces espèces vivantes. Et il y a beaucoup d'enjeux à la fois simplement de conservation de cette biodiversité, vu les menaces qui s'exercent sur les sols, mais aussi de durabilité des activités humaines. Et de plus en plus avec voilà, la transition écologique qui s'opère, notamment en milieu agricole, avec le développement de l'agroécologie, la biodiversité des sols revient au cœur des questionnements. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur la biodiversité des sols sur le RMQS depuis son démarrage? On n'a pas rien fait. On a même beaucoup travaillé, notamment pendant la première campagne, avec tout un volet sur la génomique et sur l'approche de caractérisation de la biodiversité microbienne des sols avec l'équipe de l'INRA Dijon. On a travaillé aussi localement sur des questions de biodiversité de prairies. On a travaillé en Bretagne sur la biodiversité un peu plus large en abordant différents compartiments. Et sur le RMQS2, on a aussi quelques petits exemples. Là, on a commencé à suivre l'activité enzymatique. On a un exemple d'essayer de caractériser la biodiversité des espèces de truffes à l'échelle de la France. Et puis donc ce projet de suivi de la biodiversité du sol de manière globale. J'ai fait juste deux diapos pour vous présenter quand même une avancée majeure hein, que le RMQS a permis grâce à nos collègues de Dijon et Lionel Rangard qui suit ce séminaire. Donc il en reparlera peut-être cet après-midi. Il y a eu plusieurs projets qui ont permis d'aller jusqu'à une cartographie de la biomasse, de la diversité bactérienne des sols de France et d'aller jusqu'à des cartographies de groupes taxonomiques avec la publication d'un atlas sur les bactéries du sol il y a assez peu de temps et de travailler sur les variables environnementales qui sont à l'origine de la distribution des phylums de espèces bactériennes, au premier rang desquelles le pH, puis l'usage du sol, puis la texture, donc des paramètres qui sont finalement assez simples et qui mettent en avant l'importance des propriétés du sol. Et puis, un deuxième exemple qui était en 2006-2007 par nos collègues coordonnés par nos collègues de l'Université de Rennes, dans lequel beaucoup de spécialistes de la biologie du sol auxquels pardon, ces spécialistes ont participé, donc qui consistait à suivre la biodiversité, mais cette fois par des approches d'inventaire multitaxonomique sur la région Bretagne. Donc voilà, on a regardé déjà l'aspect abondance pour avoir un référentiel de la biodiversité des sols bretons. Il a été regardé aussi les indicateurs de pratiques agricoles pour essayer de faire un lien entre, et ça c'est avec les pratiques et puis les inventaires taxonomiques qui ont été faits. Et là il y a un petit exemple avec sur les nématodes et l'impact de l'occupation du sol sur la diversité dans les différents groupes de nématodes, bactérivores, fongivores, phytophages, etc. Voilà, ça c'était ce qu'on a fait, deux exemples de ce qui a déjà été fait. Et puis donc actuellement, ce que l'on est en train d'essayer de développer, c'est Après ces phases de test, finalement, grâce aussi à d'autres projets hein, qui ont été menés, notamment le projet bio-indicateur hein, qui a été mené, piloté par l'ADEME pendant plusieurs années, tout ça, ça a permis de converger vers des protocoles qui pourraient être développés en routine et mis en œuvre sur des grands échantillonnages. Donc là, l'idée de ce programme RMQS Biodiversité. Donc, c'était à la demande maintenant de l'Office français de la biodiversité, d'essayer de réfléchir à la possibilité de mettre en place une surveillance de la biodiversité des sols français. Et donc ça s'articule avec un grand projet qui est mené actuellement aussi par l'OFB, avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, de mettre en place un réseau de surveillance de la biodiversité terrestre. Et donc là, notre brique finalement sol viendrait s'articuler avec ce réseau plus global de la biodiversité terrestre. Et donc on a commencé à travailler en 2018-2019 en mobilisant tout un tas d'experts sur la biodiversité des sols, de façon à réfléchir à quels pourraient être les protocoles mis en œuvre, quels taxons pourraient être suivis, combien tout ça coûterait. Et ça nous a permis de finalement aboutir à une réponse collective qui a été, bah oui, avec les avancées qu'il y a eu récemment, il est possible d'adosser un réseau de mesure de la biodiversité du sol et de s'appuyer sur le réseau de mesure de la qualité des sols pour mener cette surveillance. Alors, évidemment, il y a des hypothèses quand même de travail et puis un peu des challenges à surmonter. Donc, parce que le RMQS, c'est une fréquence d'échantillonnage tous les 15 ans, une maille de 16 km par 16 km. On échantillonne tout au long de l'année, donc on ne va pas privilégier des périodes favorables pour la biodiversité. Mais quand même, dans la mesure où il y a finalement très peu de références sur la biodiversité en général à l'échelle du territoire, eh ben, ça vaut le coup de se lancer là-dessus. Et puis, une hypothèse que l'on fait aussi, c'est que les variations intra-annuelles que l'on pourrait constater, groupe par groupe, seraient plus faibles que les variations interannuelles. Finalement, on avait les mêmes appréhensions quand on a lancé le suivi de la biodiversité microbienne des sols avec Lionel Ranjard au milieu des années 2000, là, et les résultats qu'on a obtenus finalement nous ont permis de montrer que ben, les grands paramètres déterminants que sont les occupations, les propriétés de sol, viennent gommer ces variations intra-annuelles. Voilà. Donc on fait le pari là pour ce suivi des autres compartiments de la biodiversité que on aura des résultats similaires. Alors on se lance pas directement sur les 2000 points d'entrée de jeu. L'idée là c'est de, dans une première phase, c'est de faire un test. Alors sur un certain nombre de sites, je crois que j'en parle juste après. Qu'est-ce qu'on va essayer de suivre? Ben, on va essayer de suivre des taxons, des fonctions avec un certain nombre de protocoles. On aura cinq protocoles qui vont être menés sur le terrain. Un premier qui est basé sur les échantillons composites de surface qui sont déjà collectés par le RMQS finalement. C'est bien l'idée de profiter de l'énergie qui est dépensée sur le RMQS classique pour y rajouter des paramètres liés à la biodiversité. Donc, on va retravailler sur les bactéries, les champignons, les protistes, les nématodes, les activités enzymatiques, la dégradation de la matière organique, et puis tester des nouvelles approches d'ADN environnemental qui sont en cours de développement. Peut-être pas encore totalement abouti, mais on va commencer à regarder ce que ça donne. On va travailler avec, par rapport à la macrofaune endogée sur des tests bêches avec, et puis, de la moutarde pour faire sortir les vers de terre, des carottages pour la mésofaune endogée, des pots barbeurs pour la macrofaune de surface et la mésofaune de surface, et puis regarder aussi avec des colonnes de sol extraites, essayer de regarder la porosité du sol en lien avec l'activité biologique. Donc le déroulement de notre travail, donc c'est actuellement une phase de test, et donc on a choisi une trentaine de sites sur lesquels on va tester tous ces protocoles, donc des vrais sites RMQS, hein, et donc là on est en train On devrait être en train de tester finalement déjà avec nos équipes de terrain régionales sur les 30 sites retenus, mais bon, avec les histoires de confinement, de Covid, tout ça a pris un peu de retard. Donc là, on démarre tout juste et le premier site test va être fait fin novembre. Ça va nous permettre d'aboutir sur un manuel qui sera, on espère, le plus abouti possible. Et à l'issue de cette phase de test, eh bien, on fera un retour d'expérience, un bilan, on va formaliser toutes les enseignements de ce test, hein, notamment en termes de logistique, de mise en œuvre. Et puis, bien sûr, on ira vers un chiffrage d'un projet national que l'on soumettra à l'Office français pour la biodiversité et qui, j'espère, voilà, ira vers peut-être un programme qui pourrait démarrer dans les années à venir. Voilà. J'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas débordé mon temps de parole. Si vous souhaitez des informations sur le RMQS, n'hésitez pas à me contacter. Sur le RMQS biodiversité, eh ben, il faut contacter Camille Imbert, donc, qui est une ingénieure de recherche qui coordonne ce projet-là chez nous en ce moment. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le RMQS et ses 20 ans, je vous ai mis un lien vers un webinaire à FES que j'ai fait en mai, là, et qui vous retrace un peu toutes les grandes avancées du projet depuis son démarrage. Voilà. Merci de votre attention.